1 Pierre chapitre 1, verset 13, et puis on va lire jusqu'au chapitre 2, verset 8. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous avait été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car elle est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Et pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont estimés. » On avait commencé à introduire cette épître la semaine dernière, de cette église qui est maintenant dans la persécution, dans la diaspora, qui sont un peu éparpillés partout. Et on avait vu la dernière fois que dans la persécution, Dieu nous offre plusieurs armes. On avait vu d'abord notre identité, le souvenir de qui nous sommes, mais aussi la foi et que Dieu veut faire grandir davantage. Et puis aussi l'espérance, parce que la terre, c'est juste un moment de passage. Et un jour, nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Et on avait vu que même dans la persécution, avec toutes ces armes, le chrétien pouvait être heureux, hein. Pas une joie, une hilarité, mais la joie que le Seigneur peut offrir dans le cœur d'un chrétien. Et Pierre va poursuivre en s'intéressant maintenant à la conduite du chrétien, et tout particulièrement dans la persécution. On appelle souvent le chrétien à bien se conduire quand tout va bien, alors là on essaye d'y arriver, mais quand c'est la persécution, là c'est déjà plus difficile. Alors déjà on a du mal quand tout va bien, alors j'imagine dans la persécution comment on va se conduire. Et là, il appelle justement les chrétiens à se conduire correctement. Et moi, j'aime bien me placer un peu dans le contexte. Donc, j'ai quelques petites écrits là qui nous replacent un peu dans le contexte de ce que vivaient les chrétiens au quotidien. Et je vais les lire, et ça nous permet un peu de comprendre. Par exemple, « Chrétien dans la rue ». Quelqu'un écrivait « Dans la rue, le chrétien, citoyen romain ou non, doit se découvrir devant les temples et les statues. » Quand il se promenait, tout simplement, il y avait des temples, des statues, et devait se découvrir. Comment s'y soustraire sans éveiller de soupçons? Comment s'y soumettre sans faire preuve d'allégeance? Si les commerçants ou qu'il en vienne emprunter de l'argent, le prêteur exige un serment au nom des dieux. Peut-il dire oui ou non à cela? En fait, un chrétien, à ce moment-là, se promenait. C'est comme si vous alliez à Étampes, et il y avait des hôtels à droite et à gauche, et il fallait vous incliner devant. Souvent, c'était l'empereur, si je me souviens bien. Ou alors, quand vous faisiez un prêt, il fallait faire un serment au nom de Dieu. Sympa, quoi. C'est comme si vous alliez faire les courses, et il fallait, à un moment, vous agenouiller devant... je ne sais pas, l'enseigne de Leclerc. Ça, c'est la vie quotidienne du chrétien à l'époque. Deuxième exemple, un chrétien dans sa profession. Alors, s'il était, par exemple, sculpteur ou doreur, comment ne pas tirer profit de son métier ou de son art, son gagne-pain, en fabriquant, par exemple, des idoles ou en travaillant pour un temple? Parce que c'est ce qui se vendait le plus à l'époque. Et si vous voulez gagner de l'argent, s'il accepte une charge publique, le sacrifice est de vigueur. Donc, si vous étiez dans l'administration, il fallait faire des sacrifices en l'honneur des dieux, etc. S'il est enrôlé en tant que soldat, comment se soustraire au serment et au rite qu'implique le service militaire ? Là aussi, il y avait des choses qui sont complètement contraires à Dieu et qu'ils étaient obligés de faire. Et puis un autre exemple face au monde, hein, par exemple à Carthage, un jour de défilé militaire, tous les soldats portent sur la tête une couronne en l'honneur des dieux. Un seul porte sa couronne à la main, il est chrétien. On l'arrête, on l'interroge, et il dit « Je suis chrétien, cela m'est interdit ». Alors grand émoi dans la ville, hein, c'est l'événement du jour, la réaction gronde, les chrétiens timorés eux-mêmes blâment le geste. Quel étourdi, quel téméraire, comment faire, comment vivre ? En fait, le chrétien se heurte tout simplement à la vie de la cité. Alors aujourd'hui, on dit que d'être chrétien, ce n'est pas toujours simple, mais croyez-moi qu'à l'époque, c'était vraiment très, très compliqué. Et c'est à ces gens-là que Pierre est en train de s'adresser, pas à nous, à ces gens-là, hein, qui étaient dans la difficulté. Un dernier exemple, la vie quotidienne devenait ainsi pour un chrétien la source de mille difficultés. La naissance d'un enfant, les fiançailles, un mariage n'allaient pas sans gestes cultuels envers les dieux. Absent des fêtes populaires qui tournaient souvent à l'orgie, désertant les temples, les repas avec les dieux, les spectacles abominables du cirque, les chrétiens rencontraient encore des difficultés au théâtre, où l'on représentait les aventures des dieux qu'ils arboraient, à l'école où les enfants apprenaient la mythologie. Alors on se plaint aujourd'hui de certaines choses, mais à l'époque, ça existait déjà. Dans l'armée où les soldats prêtaient serment de fidélité à l'empereur, leur dieu n'est pas compatible avec la religion romaine qui fondait toute la vie sociale. Nous renonçons à vos spectacles, hein, ils écrivent, parce que nous renonçons aux superstitions d'où ils tirent, nous le savons leurs origines. C'est Tertullien, je ne sais pas si vous connaissez, qui écrivait ça. Pour les païens, les chrétiens étaient donc des athées. C'est marrant, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais à l'époque, nous, les chrétiens, on était considérés comme les athées, puisque les autres croyaient en des dieux. Donc ils étaient aussi suspectés de déloyauté civique. Ils sapaient les bases même de la cité et de la culture païenne, dont ils repoussaient les valeurs les plus banales, comme le culte du corps et de la beauté dans la culture grecque. Enfin, voilà un peu ce que c'était être chrétien dans l'Empire romain et à l'époque de cette église. Pierre, justement, va pousser les chrétiens à avoir une bonne conduite. Alors, être chrétien, c'est pas facile. Nous n'avons pas trop à nous plaindre, je crois, pour l'instant, par rapport à l'époque, mais ça peut aussi arriver. Et donc, le Seigneur nous exhorte à avoir une bonne conduite, mais en toutes circonstances. On va voir ce matin ces trois points qui sont là, hein. D'abord, la conduite que le chrétien doit adopter, même dans la persécution, mais aussi sans la persécution. Deuxième chose, ce qui motive aussi cette conduite, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui me pousse à vouloir bien me conduire. Et puis, troisième chose, eh bien que cette conduite ne doit pas rester enfant, mais doit tendre vers la maturité. Donc la manière de se conduire, enfin selon Pierre, hein, dans la persécution, au verset 13, il dit « Préparez-vous, d'une certaine manière, à la persécution ». Il ne faut pas croire que parce qu'on est en France et que tout va bien, que ça ne nous arrivera jamais. Je crois que ça va arriver bientôt, mais bon. Mais se préparer à la persécution, hein. Parce que notre conduite découle de nos privilèges. Vous voyez cette particule « c'est pourquoi » au verset 13, ça fait le lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu qu'on avait des privilèges en tant que chrétien, des armes, mais aussi des privilèges. Et parce qu'on a tout cela, parce qu'on a une identité, parce qu'on est élu, ben ça va nous pousser à avoir une bonne conduite. On ne se conduit pas parce qu'il faut bien se conduire, mais parce qu'on est enfant de Dieu. Et donc ça engendre une manière de vivre. Et souvenons-nous que le chrétien, en fait, représente Jésus-Christ. Hein. Chrétien, c'est un petit Christ, tout simplement. Et représente Jésus-Christ. Pas à l'église. Enfin, si, à l'église. Mais sur mon lieu de travail. À Leclerc. Je ne sais pas si vous faites vos courses là-bas. À Carrefour, pour ceux qui vont à Carrefour. Mais en fait, on est ces petits Christ, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas à attendre la persécution pour commencer à nous souvenir que nous sommes ces chrétiens et qu'on représente Jésus. Et Pierre exhorte ces chrétiens à cindre les reins de leur entendement. Alors cindre les reins, c'est être prêt. C'est une espèce de métaphore, hein, dans le terme grec qui vient de la pratique des orientaux, qui pour ne pas être gênés dans leur mouvement, on pourrait dire dans leur marche, serraient en fait leurs vêtements flottants avec une ceinture de cuir au début d'une journée de travail. En fait, il est en train de dire aux chrétiens, ben, préparez-vous en tant que voyageurs. Quand on saignait les reins, ça veut dire qu'on allait commencer à voyager, à partir. C'est cindre les reins, se préparer au voyage, se préparer à être un combattant dans l'épreuve. Parce que peut-être un jour, ça nous arrivera. Il dit de cindre les reins de l'entendement, c'est-à-dire de nos pensées, de notre cœur, de notre intelligence. l'attitude intérieure, finalement, qui a un impact, évidemment, sur la conduite extérieure. Hein. Donc, quand il nous exhorte à faire cela, c'est, en fait, prendre une décision ferme. Hein. C'est mettre de côté, en fait, tout ce qui va nous gêner dans cette marche avec le Seigneur, tout particulièrement s'il y avait la persécution, et d'être, quelque part, en fait, réveillé. Je crois qu'en France, les chrétiens dorment. C'est bon de dormir, hein. Qui n'aime pas dormir. Mais honnêtement, quand on regarde l'Église aujourd'hui, on dort, sérieusement. Elle n'est pas très vivante. Enfin, imaginez s'il y avait une persécution, combien les choses changeraient. On aime bien dormir et là, il nous exhorte tout simplement à nous réveiller, à être ferme dans notre marche chrétienne et à nous préparer justement au cas où un jour, il y a la persécution. C'est valable aussi pour nos épreuves. Hein. On ne va pas attendre que l'épreuve arrive pour commencer à nous préparer à la traverser. C'est aujourd'hui en amont, en connaissant notre Seigneur, que l'on se prépare à traverser une épreuve. Et dit « soyez sobre ». Alors, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Le mot parle d'autre chose. C'est plutôt un état mental équilibré, sain d'esprit, vivant et éveillé. C'est quelqu'un qui est réveillé avec le Seigneur. Ça parle de clarté. C'est-à-dire que ce chrétien ne doit pas être intoxiqué par le monde. Un pied dans le monde, un pied dans l'Église, un pied avec le Seigneur et un pied avec la chair ou le diable, parfois même. Ses pensées sont claires aussi. Il a des priorités dans sa vie de chrétien. Il sait où il va. C'est rester maître de soi. Libre, parce que quand on est maître de soi, on est libre. Quand on est esclave du péché, on n'est pas libre. Hein. Maître de soi, libre, modéré, sans être happé par toutes les passions que le monde ou nous-mêmes, nous puissions avoir. Donc c'est ça, être sobre. Équilibré, finalement, dans ma vie. Et dire avec une entière espérance. Vous avez une espérance ?
Amen.
Le repas de midi ?
Non.
Ah, vous ne l'espérez pas ? Moi, c'est quand même. Hein. C'est quoi votre espérance ?
La vie éternelle.
Ouais, tellement banal à dire.
Oh.
Non, c'est pas contre toi, je le dis contre tout le monde. Parce qu'on le dit avec beaucoup de facilité, on sait ce qu'est notre espérance. Mais est-ce que, comme on disait tout à l'heure, le lundi matin, quand on part, est-ce qu'on part avec la joie de cette espérance ? Ou alors on pense déjà à toutes les difficultés que je vais avoir avec mes collègues. C'est bien dommage qu'on ne l'aide pas justement au début de notre journée. C'est peut-être parce qu'on ne lit pas la Bible, ou qu'on ne prend pas un temps avec le Seigneur. Là, si on prend ce temps-là, on va se souvenir de notre espérance, de la grâce qui nous est faite. Et là, à mon avis, on va partir plein de joie au travail, même s'il y aura des difficultés. Je sais, je connais, hein, j'ai vécu ça, mais ça sera différent, je pense. Mais c'est une entière espérance, c'est une foi complète. C'est pas une demi-foi, c'est pas juste je pense un peu. C'est quelque chose qu'on vit, tout simplement. La foi, c'est quelque chose qu'on vit, et l'espérance, c'est quelque chose qui est vraiment au fond de moi. Une espérance en Jésus-Christ, dans tout ce qu'il peut pour moi, mais aussi parce qu'un jour, il va revenir. C'est espérer la grâce à venir, et on avait parlé de ça la dernière fois. Vous êtes des héritiers de Christ, un héritage vous attend. Souvent, on se plaint parce qu'on n'a pas d'argent ou d'héritage. Il y a un gros héritage qui nous attend, en fait. Le meilleur. Et en plus, il est éternel. Il vient de Dieu. C'est bien. Ça encourage, non ? Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut vous donner, là ? 1 million d'euros pour que ça aille ? Ça devrait nous encourager. Et puis, dans cette manière de se conduire, il parle au verset 14 à 16 de notre manière de ne pas se conformer aux convoitises. C'est-à-dire obéir à Dieu, mais en rejetant les convoitises de notre vie passée. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que d'un seul coup, tout a changé. Il y a des choses qui ont changé, mais il y a encore la chair qui est là. Et il y a beaucoup de choses dont il faut encore se débarrasser. Et la paternité divine implique l'obéissance filiale. J'ai un père et je suis son fils. Et j'espère que pour vous, vos enfants doivent vous obéir généralement. Non ? Vous laissez faire vos enfants ?
C'est différent.
J'ai un doute. Hein. C'est différent ? Non, c'est pareil. C'est pas différent. C'est exactement pareil. Je pense qu'on devrait être même plus obéissant à notre Père Céleste. Parce que lui, il a quand même donné sa vie pour nous. Et donc, parce que je suis enfant de Dieu, je veux me souvenir de cette paternité là-haut dans le ciel. Et je veux devenir cet enfant obéissant. Mais les convoitises, c'est pas forcément, parce que là il faut rester dans le contexte, c'est pas forcément celle qu'on connaît tous les jours, mais imaginez être dans la persécution, qu'est-ce qu'on a ? On a peur. On peut avoir des doutes. Et on a même des fois envie de fuir tout simplement la persécution, parce qu'il y a des chrétiens qui se retrouvaient devant des lions. Minou, minou. Oui, mais ça donne envie des fois plutôt de renier le Seigneur. Revenir à peut-être ces convoitises parce que là elles ont notre forme et finalement de lâcher la foi parce qu'on veut préférer vivre que mourir pour le Seigneur. Et tout cela pour vivre une conduite sainte, versets 15 à 16, hein, parce que les chrétiens portent l'ADN de son Père, hein, la sainteté. Ça, c'est l'ADN qu'on a avec Dieu. Enfin, il veut qu'on devienne de plus en plus saint, mais on l'est aussi positionnellement. Hein. Celui qui nous a appelés est saint et il veut que l'on soit aussi saint. Et il veut que l'on vive saintement comme Dieu, en tout cas que ça contraste avec le monde et avec ses habitudes. Alors, personne n'est parfait et personne ici n'est saint totalement, pas moi en tout cas. Mais on peut y tendre. D'abord, Dieu nous voit comme saints, mais il y a cette sanctification, cette transformation qu'il veut faire en nous. Et de plus en plus, alors il ne faut pas se dire, voilà, je suis bien où j'en suis, le Seigneur veut nous travailler de plus en plus. De toute façon, si vous ne voulez pas vous laisser travailler, Dieu enverra des preuves pour vous transformer ou me transformer. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on lui ressemble de plus en plus dans cette sainteté. Puis une troisième chose dans cette conduite, avoir une bonne conduite, mais pleine de crainte, au verset 17. Il parle de la cohérence de notre vie en tant que chrétien. Il dit, si on invoque Dieu, si je dis à mes collègues que je suis chrétien, si je dis à mes enfants qu'on va à l'église ou que je suis chrétien, ça sous-entend quelque chose, ça sous-entend une cohérence. Si on se dit chrétien, c'est que nous faisons aussi la réputation de Dieu, quelque part. Et les gens nous regardent. Ah, ils nous regardent, hein. Quand on se dit chrétien, alors, ah, ils nous observent. Hein. Dès que vous faites une bêtise, ah, ils arrivent à vous avoir. Mais c'est vrai, quelque part, on a une réputation à faire, et celle de Dieu. Et forcément, si j'invoque Dieu, j'ai une conduite conséquente. Je vis avec crainte pour que d'autres aussi craignent tout simplement Dieu. Je voudrais leur donner envie, en fait, de vivre la même chose que moi. Ça ne marche pas toujours comme ça, mais quand même, les gens se posent des questions. On ne réagit pas comme le monde, on ne triche pas. On ne fait pas ce que fait le monde généralement et qui n'est pas bien. Et forcément, ça leur pose des problèmes ou des questions des fois. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a là, mais par exemple, il y a une histoire là que j'avais retenue, mais c'est l'histoire d'un chrétien qui... en fait, il y a des amis non chrétiens, je résume un petit peu. C'est à l'époque où il y avait les jeux. Et puis, il voulait rester saint, pur et tout ça, mais les amis ont réussi à l'entraîner, à aller voir des jeux. C'est là où on se massacrait avec les gladiateurs et tout ça. Alors il y va en fermant les yeux, en fait, en disant ben, « J'y vais, mais je ferme les yeux. Comme ça, je ne vois pas ce qui se passe, parce que c'est atroce ce qui se passait à ce moment-là. » Mais au fur et à mesure, les amis commencent à le pousser et à dire « Mais allez, ouvre les yeux, regarde. » Puis il entend les cris, il entend les hurlements, la joie, etc., de tous ces gens un peu fous, quoi. Et finalement, il ouvre les yeux et devient pire, en fait, que les autres, parce qu'il s'est laissé tenter. Quelque part, c'est une bonne histoire qui nous rappelle qu'on veut avoir une bonne conduite, mais des fois, on laisse les petites portes ouvertes. Et on croit qu'on va être assez fort pour lutter contre cela. Ça ne marche pas comme ça. Je me souviens qu'on était sur Arles, il y avait la feria, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pendant 3 jours avec les taureaux, etc. Ils lâchent les taureaux dans les rues et puis c'est la beuverie, mais alors souvent un mort chaque année. Et on faisait ça, hein, à l'époque quand j'étais pas encore chrétien, ou la première année que j'étais chrétien, mais la deuxième année, j'ai dit stop. Et mes amis, non, je suis chrétien et ça ne ressemble plus du tout à ce que je veux dans ma vie. Et on avait arrêté net. Et dans bien des cas, il faut savoir s'arrêter net. Je pense à nos jeunes surtout, hein. Pas toujours simple d'être jeune. Hein. Mais il y a des choses, il faut dire non, même si on se moque de nous, même si, voilà, parce qu'il ne faut pas croire qu'on n'est pas assez fort pour lutter des fois face à certaines choses. Quelqu'un écrivait, nous reconnaissons ici le thème de la supériorité sur la vie, sur le discours. Hein, je vais vous éviter le latin. Ce n'est pas par notre éloquence qui est grande, c'est par notre vie. C'est plutôt, au lieu de parler, au lieu de dire les choses, il faut les vivre. Il faut dire, il ne faut pas dire que je suis chrétien, il faut vivre ma vie chrétienne. Et tout ça me pousse à me conduire avec crainte. Parce qu'on l'a lu tout à l'heure, Dieu est sans favoritisme. Autant on voit que Dieu va juger ceux qui ne sont pas croyants, mais il dit qu'il est sans favoritisme même pour nous. Si on fait mal, il nous le rappellera même pour ses enfants. Et de toute façon, un parent juste corrige son enfant. Il ne fait pas de favoritisme normalement. Enfin, j'espère. Mais Dieu est juste avec nous et il reste le juge de nos œuvres. On n'ira pas devant le grand trône blanc où seront jugés ceux qui ne sont pas croyants, mais on sera devant un tribunal de Christ, et il évaluera quand même notre conduite, notre façon de faire, etc. Et ça, on l'oublie un peu, bien souvent. Mais en même temps, si je veux me conduire avec crainte, c'est parce que je veux faire honneur à Dieu. Et je veux faire honneur à Dieu le dimanche matin à l'église, mais je veux faire honneur à Dieu dans mon travail, à Auchan, ou ailleurs, et même, s'il faut, un jour, dans la persécution. Jésus-Christ a fait honneur à Dieu durant toute sa vie. il n'a pas eu une vie facile, honnêtement. Bon, vous allez me dire, c'est Jésus. On est d'accord. Il demande quand même de lui ressembler. Donc, dans ce premier point, la persécution, en fait, on pourrait dire l'épreuve aujourd'hui, ben, ça n'excuse pas, en fait, notre comportement. Même si c'est difficile, des fois, d'être chrétien, le Seigneur, au travers de Pierre, nous appelle à vivre comme des modèles, comme des chrétiens qui ont une bonne conduite. Alors, pour vivre comme ça, il faut peut-être se motiver. Hein, parce que s'il fallait partir comme ça à froid, moi, j'irais pas loin. Et Pierre donne des motivations pour cette conduite. Et la première, c'est de nous souvenir du sacrifice de Jésus-Christ, hein, versets 18 à 20. Se souvenir de notre rachat. Parce que l'héritage céleste n'est pas en fait le fruit de nos œuvres. Hein. On n'a rien fait pour être sauvé. Rien du tout. Et de toute façon, on ne peut rien faire pour être sauvé. Mais Christ nous a rachetés. Avant, on était esclaves de notre péché. Aujourd'hui, on est esclaves de Christ. Nous avons été sauvés. Et c'est Dieu qui a tout permis. Et il nous permet de vivre une vie nouvelle, alors qu'avant, nous avions une vie vaine, totalement perdue. Hein. Alors, on croyait qu'elle était bien, cette vie, mais finalement, quand on vit celle de Christ, c'est quand même autre chose. Mais tout cela, c'est la grâce de Dieu. Et c'est bien, pour me motiver à vivre une bonne conduite, de se souvenir du prix du salut aussi. Il dit au verset 19 à 21, c'est un sacrifice qui a été prévu avant la fondation du monde. Avant même que je naisse, Dieu avait déjà prévu de me sauver ou de donner le moyen de me sauver. Ça veut dire qu'il avait prévu aussi que l'homme allait chuter. On se demande pourquoi il a permis que l'homme vienne quand même. Hein. Ça, il nous répondra là-haut. Question théologique. Mais il dit un sacrifice à cause de vous, à cause de nous. Jésus est allé à la croix à cause de nous. Il est mort à la croix à cause de moi. Pas à cause de l'autre. À cause de moi, à cause de mon péché, et parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour que je puisse être sauvé. Et ce sacrifice, enfin j'espère, devrait motiver notre conduite. Quand on a du mal à avancer dans la vie, je pense qu'il faut s'arrêter et regarder cette croix, et voir la souffrance de Christ pour moi à ce moment-là, et tout l'amour aussi qu'il y a derrière pour moi. Et si ça, ça ne me motive pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Quelqu'un a donné sa vie pour moi, et franchement, ça devrait me donner un petit coup de peps, comme on dit, de zèle, pour aller avancer et me conduire correctement. Notre motivation, verset 21, c'est la résurrection et la gloire de Christ. Dieu a ressuscité Jésus-Christ, et c'est le socle de ma foi, mais il l'a aussi glorifié. En disant cela, il dit que Jésus est vivant aujourd'hui. Et si Jésus est vivant, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est tranquillement au ciel, et puis on fait notre vie.
Qu'il intercède pour nous.
Donc il pense à nous. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ est vivant aujourd'hui ? Parce que peut-être quelqu'un vous posera la question un jour.
Ça nous est promis aussi à nous.
Ça nous est
promis aussi cette vie. Et nous, c'est la promesse de la résurrection pour chacun.
D'accord, oui, ça nous fait penser à l'avenir, oui.
Il nous a laissé
Et il est là.
Il est là, il est présent.
Oui. 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 Il nous a laissé le consolateur, le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, oui. Finalement, tout ça, alors, le matin, je pars à mon boulot avec la tête un peu dans, hein, comme on dit, et j'ai une espérance, Christ est présent, le Saint-Esprit m'aide. Ça fait quoi, en fait, dans la journée, ça, c'est ça.
On n'est jamais seul.
On n'est jamais seul. Ça nous encourage, non ? Parce que des fois, on cherche l'encouragement dans le café. On le réveille, mais c'est pas des paroles d'encouragement, ça. Alors, si vous partez demain avec la tête un peu triste, je serai pas content. Souvenez-vous que Christ est vivant, et parce qu'il est vivant, ça devrait m'encourager et ça devrait me motiver justement à avoir une bonne conduite. Notre foi, notre espérance repose sur Dieu qui a tout fait pour nous sauver, et il est vivant. Et un tas de choses sont derrière toutes ces choses-là. Et puis, une troisième chose, c'est l'amour fraternel qui peut nous motiver dans notre bonne conduite. Il dit que la parole a produit en fait en nous une âme purifiée, obéissante à la vérité. Et ça devrait produire un amour fraternel, un amour pour nos frères, pour nos sœurs. Parce qu'en fait, on fait partie de la même famille en Christ. Et même quand on vient de Roumanie, c'est mes frères et mes sœurs, ou des États-Unis, on fait partie de la même famille éternelle. Vous allez devoir vous supporter pendant toute l'éternité. Ouais. Bon, là où on sera parfait, il n'y aura plus besoin de se demander pardon, mais en attendant, je pense qu'on peut déjà bien commencer sur la terre. Et c'est formidable d'avoir une famille comme cela. où que vous alliez sur la terre, vous n'êtes jamais perdu, en fait, parce que vous avez des frères et des sœurs. Et ça, c'est merveilleux. Et on est appelé, comme dit Pierre, à nous aimer de tout notre cœur. Pas de un peu, de tout notre cœur. Hein. Donner vraiment le maximum. Ce n'est pas juste un amour entier comme ça qu'on déclare. C'est quelque chose qui est démonstratif. Et on peut se poser la question, mais comment je peux démontrer mon amour pour mon frère, pour ma sœur ? Commencer par prier déjà les uns pour les autres. Et après, il y a un tas d'autres choses peut-être à faire. Et puis une conduite aussi motivée par la parole véritable et éternelle de Dieu. Il dit, nous avons été régénérés, c'est-à-dire qu'on est né de nouveau par une semence incorruptible, indestructible. La vérité de Dieu, je pense quand vous l'avez lu, la parole, a complètement bouleversé notre vie. On a trouvé un sens à notre vie. On a compris que Dieu est vivant, etc., etc. Et cette vérité qui vient de Dieu purifie en fait de l'erreur. Et tous les jours, quand je lis la Bible, finalement, j'ôte les erreurs que j'ai peut-être dans ma vie, les quiproquos, etc., etc. Et tout cela purifie ma vie et me conduit évidemment au salut, en tout cas pour celui qui a obéi à cette parole. Et il contraste cela avec ce que fait le monde, hein, puisqu'il dit que le monde fait des choses, mais c'est éphémère, ça passe. Tous ces gens qui ont plein de gloire aujourd'hui, ça durera 3, 4 ans, 5 ans, et puis finalement, beaucoup se suicident après avoir eu plein de gloire. Hein. Mais la parole de Dieu demeure. Le monde passe, mais la parole demeure. Et l'évangile est cette parole de Dieu, il nous dit. Et Dieu parle encore à l'homme au travers de la Bible. Et en distribuant les traités avec François, il m'a dit quelque chose. Il a dit, Dieu nous parle dans la Bible. Rien de nouveau. Mais quand on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir à ça, on veut toujours que Dieu nous parle, par SMS, par mail, etc. Ça ne marchera jamais, de toute façon, je vous rassure. Mais en fait, quand on ouvre la Bible, Dieu me parle. Alors, je ne sais pas si vous ouvrez votre Bible parce qu'il faut lire la Bible, parce que, oh là là, il faut être un bon chrétien. Moi, j'ouvre la Bible parce que Dieu me parle. Je ne l'entendrai jamais d'une autre manière, mais Dieu est en train de me parler. Et si on a compris ça, en fait, on a envie de lire tout le temps, non ? Mais est-ce qu'on le fait ? Parce que là, vous me dites, oui, mais est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait ? Prenez le temps de lire la Bible avec ce regard. Dieu nous parle et veut nous dire des choses tous les jours. Hein. Et ça devrait franchement motiver le chrétien, même dans la persécution. Donc ce deuxième point, notre motivation dans la persécution vient de Jésus-Christ, parce qu'il est vivant, pour tout ce qu'il a fait, par l'amour fraternel des uns et des autres, parce que si on est dans la persécution et qu'on se frappe les uns sur les autres, alors là, franchement, c'est triste. Et par la parole de Dieu qui est vivante, agissante encore pour nous aujourd'hui. Et troisième point, se conduire, mais avec l'idée de mûrir spirituellement. Je pense que tous les chrétiens, à un moment, au bout de certaines années de vie chrétienne, on se dit, voilà, j'y suis, je suis mûr. Hein. Quand je me compare aux autres, je suis quand même bien en avant, j'en sais des choses par rapport à d'autres, et je vais rester comme ça pendant le reste de ma vie. Ce n'est pas tout à fait le programme que Dieu a pour nous, hélas. D'abord, le chrétien est appelé à rejeter le péché pour la maturité. Il dit, Pierre, en chapitre 2, verset 1, « Rejeter la tentation ». Le mot « rejeter », ça signifie se dépouiller, poser de côté ou au loin, en fait, se débarrasser de tout ce qui est encore mauvais dans notre vie. Rejeter le péché. Surtout, ben, comme on avait vu, tous ces péchés qui peuvent peut-être tenter le chrétien dans la persécution. Et il énumère quelques péchés qui pourraient être au quotidien, mais on peut peut-être les voir dans la persécution. Par exemple, renoncer à la méchanceté. Vous savez, quand vous êtes persécuté et qu'on est en train de tuer votre famille devant vous, vous n'avez pas des paroles d'amour, généralement, pour la personne qui est en train de faire ça. Et la tentation, elle est là de vouloir blesser l'oppresseur, peut-être même de se venger. Et là, on pêche. Alors, je comprends, hein, et Dieu nous comprend aussi, mais apprendre à résister à cela, ce n'est pas toujours simple. Mais Dieu peut nous aider dans ce cas-là. Rejeter la ruse, c'est-à-dire dans une situation d'oppression, c'est de mentir d'être chrétien. Hein. On peut ruser en disant « Oh ouais, je suis chrétien, mais je ne crois pas trop, je ne vais pas à l'église. » Enfin, on peut trouver plein de superfuges hein, pour dissimuler. Hein. Le mot, en fait, c'est plutôt une hypocrisie. C'est comme un acteur qui joue une autre vie. Et des fois, peut-être face à un bûcher, ben, on va jouer l'acteur. En faisant comme si je n'étais pas un chrétien, parce que j'ai envie de préserver ma vie. Autre tentation, l'envie. Ben, comme on l'a vu tout à l'heure, ces chrétiens au quotidien, dans leur travail et tout ça, ben, voyez les autres collègues, qui avaient peut-être plus d'avantages qu'eux, parce qu'eux étaient chrétiens et pas les autres. Et ben, à un moment, Moi aussi, je veux ma prime. Hein. Ou moi aussi, je voudrais certaines choses que les autres ont. Et il y a la jalousie, là, qui peut grandir dans le cœur. Puis une dernière, la médisance, hein, la diffamation, ou peut-être les paroles mauvaises contre les persécuteurs. C'est légitime, je le reconnais. Mais Pierre rappelle que ça peut être une tentation. Et quand on commence à devenir grossier, insultant, ou être méchant peut-être avec même celui qui nous oppresse, Jésus n'était pas insultant avec ceux qui l'oppressaient. Il les a pardonnés, alors facile à dire. Hein. Mais le Seigneur nous pousse à vivre de cette manière-là. Et plutôt que vivre dans ce péché, il nous dit plutôt préférer la croissance. Hein, au lieu de rejeter, mais désirer aussi, avec autant d'empressement qu'un bébé a besoin du lait. J'ai déjà vu vos bébés quand ils ont besoin de lait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un SMS en disant « ça serait bien que peut-être ». Non, ça chiale, ça hurle, ça crie, ça a besoin de son lait. Vous êtes comme ça le matin pour le bébé? Ne criez pas, ce n'est pas super. Mais chez le bébé, c'est instinctif. Il ne fait pas exprès, il a besoin de ça. Il en a absolument besoin pour lui. Mais est-ce que nous, parce qu'il sait aussi que là, il y a la croissance qui va avec. Mais est-ce que moi, c'est devenu instinctif de vouloir grandir avec le Seigneur? Ou alors, c'est une petite option de temps en temps, chaque année, le nouvel an, je reprends mes petites... je promets que... Gna gna gna. Et puis finalement, je ne fais rien, et puis j'attends l'année prochaine pour recommencer. Est-ce que c'est instinctif chez moi de vouloir grandir avec le Seigneur? Le lait, c'est quelque chose qui protège contre les microbes du monde, quelque part, par rapport au lait que les mamans donnent, mais le lait spirituel, c'est ce qui nous protège du monde et nous pousse à la maturité. Quelqu'un écrivait « La maturité spirituelle n'est pas une culture générale de la Bible. On peut connaître toute la Bible. » Donc ce n'est pas une culture générale de la Bible, c'est son application. Il ne s'agit pas de connaître tout. Alors c'est déjà bien de connaître la Bible pour savoir ce qu'il faut faire. Mais une fois que je sais ce que la Bible me dit, ben je dois l'appliquer. Et c'est ça la maturité. Connaître la parole de Dieu, mais aussi la vivre au quotidien. Et ce n'est pas toujours simple. Mais il faut désirer cette croissance. Alors par moi-même, je vais avoir du mal à grandir. Je peux désirer des fois et j'ai du mal à avancer. Mais le Seigneur, lui, sait que j'ai envie et va me permettre de grandir spirituellement. Et ce qui est bien, c'est que ça va durer comme ça toute ma vie. Parce que vous vieillissez aussi. Bah, on était bébés, mais on grandit, on est ado, on est adulte, et puis à un moment, on est un peu plus âgé. Il y en a qui sont déjà ressuscités, hein, comme François. Il y a 80 ans, on dirait qu'il avait 15 ans. Non, je rigole. Mais... on grandit comme cela durant toute notre vie et on ne s'arrête pas un jour en se disant « ben tiens, non, j'ai envie de rester ado ». C'est la vie. Et c'est exactement la même chose dans notre vie spirituelle. On est censé grandir, croître spirituellement jusqu'au moment où le Seigneur nous reprendra. Et c'est un combat, mais il faut y penser à tout cela. Et Pierre exhorte tous ces chrétiens dans la persécution, alors qu'ils sont opprimés, qu'ils sont battus, tués, à grandir avec le Seigneur. Je pense qu'ils ont dû grandir un peu plus vite que nous, hein. Il dit « Désirer l'édification et l'honneur », chapitre 2, versets 4 à 6. Et il rappelle de s'approcher de Jésus-Christ, hein, « Approchez-vous ». C'est venir, en fait, le mot grec, c'est venir s'adresser, s'avancer, et j'aime ça, se lier, s'attacher, en fait, à Dieu. Quand il dit « Approchez-vous de Christ », il dit quelque part, mais prenez-le avec vos deux mains, attachez-vous à lui et n'en partez plus. Hein. Il dit de s'approcher comme des pierres vivantes et précieuses. On est tenu en honneur et estimé par Dieu, en fait, comme ces pierres précieuses. Dieu nous regarde, au travers de son Fils, évidemment, mais il nous estime. Je m'étais arrêté sur ce verset en me disant, mais Dieu m'estime. Hein, et heureux de me connaître ou de m'avoir sauvé, mais je suis une pierre vivante qu'il aime. Et ça, c'est pas rien quand on y réfléchit. C'est énorme. Et parce qu'il m'aime, et parce que je suis une pierre vivante, j'ai ma responsabilité, et... d'abord de me réfugier en Christ, parce qu'il va nous aider dans l'oppression, dans les difficultés, tout ça. Mais toutes ces pierres vivantes aussi vont devoir s'édifier ensemble, hein, pour bâtir un même édifice, et même en tant que persécution. On est appelé à faire grandir l'Église aujourd'hui, mais même s'il y avait la persécution, je crois qu'elle grandirait plus vite. Mais bon, mais chaque pierre vivante est appelée à édifier cette Église. Et ça rappelle que chaque pierre vivante a son importance. Alors, il y a souvent des chrétiens qui disent « Oh, je ne sais rien faire, je ne suis pas bon, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. » La Bible dit « Vous êtes une pierre vivante. » Alors, vivante, ce n'est pas une pierre morte. Ça veut dire en action et avec quelque chose à faire. Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous avez à faire? C'est la rentrée, hein? Pousser un peu chacun à trouver sa place. Mais qu'est-ce que j'ai à faire? Je suis important en tant que Pierre. Et c'est aussi un acte volontaire, en fait, de moi-même, en tant que Pierre, de vouloir m'associer à cet édifice et de vouloir travailler dans cet édifice, ou de demander comment pouvoir travailler. Mais c'est moi qui dois faire le premier pas. Je ne peux pas vous forcer à travailler dans l'Église. Je pourrais, mais ça serait une secte à ce moment-là. Mais le Seigneur veut nous pousser à faire cet acte volontaire de servir dans l'Église. Pour former ou édifier une maison spirituelle, un saint sacerdoce, comme il dit, une Église tout simplement à la gloire de Dieu, afin d'offrir des victimes spirituelles. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là, mais quand on voit dans la parole, par exemple, par notre corps, hein, notre manière de vivre, on peut s'offrir aussi par nos dons qu'on offre à Dieu, et parce qu'on veut le servir, par notre louange. Et il y a une multitude de choses que l'on peut faire pour simplement honorer notre Dieu. Et tout cela parce qu'un jour, nous serons honorés par Jésus-Christ. Vous imaginez qu'un jour, le Seigneur nous accordera l'entrée dans le ciel. Et il nous honorera, d'abord parce qu'il va nous donner sa gloire, il la partagera avec nous, il nous offrira l'héritage dont on a vu. Mais est-ce qu'on mérite ça, honnêtement? Quand je me regarde des fois vivre, moi je ne mérite rien, honnêtement. Et vous non plus, je crois. Parce qu'on est encore loin d'être parfait, on est encore pécheur avec tous nos défauts, et pourtant Jésus-Christ plaît à nous honorer. Si ça, ce n'est pas encourageant, je ne sais pas. Ça devrait donner du peps. Eh ben, ça donnerait un peu plus de courage et de joie, hein. Et contraste ça, Pierre, avec la persécution, hein. Oui, vous êtes persécuté, mais souvenez-vous de ce qui vous attend, de l'honneur qui va vous être fait là-haut. Pas forcément parce que vous êtes persécuté, mais parce que vous êtes sauvé. Et à regarder la persécution et ce qui nous attend, c'est vrai que, franchement, il n'y a pas photo. Et puis, il contraste aussi entre les incrédules qui rejettent la parole. Eux, finalement, c'est l'échec dans leur vie. Alors peut-être que le Seigneur les sauvera d'ici là. Alors eux, peut-être, vous persécutent, vous font du mal, mais à la fin, ils ont perdu. Ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir aussi. Par contre, pour nous, c'est la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Alors même si on est oppressé, même si des gens nous font du mal, eux vont perdre au bout. Mais nous, on va gagner à cause de Jésus-Christ. Et ça, il faut l'avoir en tête. Parce que souvent, on est un peu jaloux, parce qu'on ne comprend pas tout, mais... au fond, quoi qu'il nous arrivera, on sera victorieux. Et ça, c'est aussi un puissant encouragement que Pierre est en train de dire à ses chrétiens dans la persécution. Finalement, la croissance spirituelle reste l'objectif du croyant. C'est votre objectif? C'est votre objectif de grandir avec le Seigneur? Pas terrible, hein? C'est votre objectif? Ah oui, j'insiste un peu, ça va crier à un moment, hein? Mais c'est ce qu'il y a dans le cœur, là, hein, quelque part, qui s'exprime. Il faudrait que ça soit vrai dans mon cœur, mais pleinement vrai. Et si je veux grandir, vous imaginez ce que l'Église va devenir aussi. Merveilleuse. Parce que l'Église dépend aussi de moi, et de mon implication, de ma croissance spirituelle. Plus je grandis spirituellement, plus l'Église va grandir. Forcément, c'est lié. Je suis important. Donc, ça doit être notre objectif en tant que chrétien, et même dans l'épreuve, même dans la persécution, même à mon travail, même dans toutes les situations. Ça doit être mon objectif que de grandir, au moins par reconnaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Pour terminer, la persécution, on l'a vu, n'excuse pas ou ne pousse pas à une mauvaise conduite du chrétien. Ce n'est pas parce que les choses vont mal que je vais me dire, ben, tiens, je me laisse aller. Au contraire, c'est là où je dois justement me brider davantage, me maîtriser davantage et faire honneur au Seigneur. Le salut et la résurrection devraient aussi me motiver en tant que chrétien à bâtir une église pleine d'amour. La motivation, vous ne la trouverez jamais ailleurs qu'en pensant à ce que Dieu a fait pour vous. Alors, aussi l'amour fraternel des uns et des autres. Mais vraiment, si on a compris le salut, si on a compris ce que Jésus a donné pour nous, quand il a donné sa vie, ça me motive profondément pour le servir par reconnaissance. Et évidemment, à nous aimer les uns les autres. La vie ou la persécution aura pour finalité l'honneur que Dieu nous fera en nous accueillant pour l'éternité. On vit des choses difficiles dans la vie, mais vous savez, on arrive à 80 ans, on regarde en arrière en disant « purée, ça allait vite, hein ? Ça allait très vite, alors même déjà 40 ans, on se dit ça. » Et finalement, on se retrouve devant le Seigneur avec les honneurs, avec la gloire et tout ce qu'il nous a promis. Et on se plaint souvent quand même. Je pense qu'il faudrait être un peu plus encouragé, un peu plus zélé des fois, et ne pas se focaliser sur la terre, mais se focaliser sur ce qui nous attend au ciel, et même déjà tous les privilèges que nous avons en tant que vivants. Alors, j'aimerais qu'on soit motivé pour nous conduire comme Jésus lui-même s'est conduit sur cette terre, en toutes circonstances, en tout lieu, et face à tous les publics qu'il a rencontrés. Que le Seigneur nous aide à avoir une bonne conduite. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et tout particulièrement pour cette épître qui nous montre la vie de ces chrétiens dans une situation difficile de persécution. Et là où l'humain dirait de calmer un peu le jeu, toi, ben, tu redoubles en fait ce que tu attends de nous et tout particulièrement cette bonne conduite. Seigneur, tu nous connais chacun où nous en sommes et je te prie de nous aider à bien nous conduire, à être motivé par tous les points que nous avons abordés ce matin et tout particulièrement par ta grâce qui nous a été faite pour vivre mieux cette vie chrétienne. Tu sais que nous avons aussi à énormément grandir encore dans notre vie chrétienne, dans la foi. Et Seigneur, je te prie de nous aider justement dans ce domaine. Nous ne voulons pas le faire pour notre orgueil, Seigneur, mais nous voulons le faire par reconnaissance pour toi, Seigneur. Et qu'à travers notre bonne conduite, eh ben, ce monde puisse voir briller tout simplement la lumière, Seigneur, et que nous puissions aussi porter ta parole à quiconque veut bien l'entendre. Et qui sait, Seigneur, ben, peut-être d'autres vont se joindre à notre Église parce qu'ils t'auront accepté dans leur vie. Apprends-nous à bien nous conduire, Seigneur, pour simplement t'honorer. Je te prie en Jésus-Christ. Amen. Amen.